Bonjour, bonjour, il est midi, on est en direct de Radio Galère pour le retour de Un Lundi avec CQFD. Est-ce que ça va, Un Lundi avec CQFD ?
Ça va très bien et toi ?
Oui. Ouais.
Comme je disais, c'est le retour d'une émission qui avait eu lieu plutôt en 2024 avec nos autres camarades auxquels on pense bien fort ce matin, donc Léna, Jonas, Inès et Alex, avec qui on avait monté cette émission. Et en 2026, une très bonne résolution, on reprend Un Lundi avec CQFD. Et donc là, vous, auditeurs du midi, vous vous demandez qu'est-ce que c'est Un Lundi avec CQFD. Donc c'est une émission qui va avoir lieu tous les deuxièmes lundis du mois, de midi à midi 30, avec ma camarade Sonia. Et ouais. Sonia, je te laisse te présenter un peu plus qu'est-ce que c'est CQFD.
Alors moi je m'appelle Sonia et je pense que je vais laisser Neil et Livia qui sont présents de CQFD ici. On a aussi Paul par ailleurs qui prend des vidéos, vous ne l'entendrez
Paul
pas.
Paul du Paul Vidéo.
Paul du Paul Vidéo, absolument, vous ne l'entendrez pas, mais lui, il nous voit. Voilà, je vous laisse présenter le journal CQFD.
Ouais, donc moi c'est Neil, donc je suis au comité de rédaction de CQFD. CQFD, c'est un journal donc indépendant qui est basé à Marseille. Il sort en kiosque tous les mois et donc on vit quasiment exclusivement des ventes et des abonnements, plus des dons. Donc c'est un journal qui existe depuis 23 ans et avec une ligne plutôt libertaire et antimilitariste à l'origine. Et donc ce mois-ci, on a décidé de renouer un peu avec cette tradition antimilitariste, puisqu'on a fait une qui parle de la guerre. Et je vais laisser Livia en parler.
Merci Neil. Moi c'est Livia, je suis salariée à CQFD et en effet je vais vous parler de notre une et de notre page 3 ce mois-ci, donc le numéro de janvier qui est actuellement en kiosque. Ça ne vous a pas échappé, 2026 s'est ouvert sur une actualité très portée sur la guerre. Bien sûr, on a eu dans la nuit du 2 au 3 janvier le bombardement du Venezuela par Trump et par les USA qui a causé la mort de 100 personnes et où les USA ont carrément capturé le président Nicolas Maduro à Caracas. Depuis, Trump menace de s'en prendre au dirigeant colombien Gustavo Petro ou d'attaquer le Groenland. Et de manière générale, en fait, on constate qu'on est dans une situation où l'équilibre international il est un peu perturbé, déstabilisé, où le droit international n'existe plus trop, ou en tout cas n'a plus trop d'autorité. Et ça se constate aussi en Europe ou en France, mais comme dans d'autres pays européens, en Belgique, en Pologne, en Italie ou en Allemagne, on a une montée des discours guerriers un peu partout. On a des appels à la défense de la nation, on a un durcissement autoritaire des régimes qui sont dits de démocratie libérale et on a une augmentation des budgets pour l'armement. Donc le 27 novembre dernier à Vars, Macron a annoncé le rétablissement du service militaire de 10 mois sur la base du volontariat, mais bon ça c'est pour le moment. Et aujourd'hui d'ailleurs j'ai entendu à la radio ce matin que c'était le lancement officiel du service militaire, donc on est très contents. Et on sait qu'ils cherchent à recruter 3000 jeunes. Donc en fait, l'idée pour Macron, c'est à la fois de renforcer notre défense nationale si la France était attaquée par une puissance étrangère, mais il s'agit aussi de mobiliser des femmes et des hommes si l'Union européenne entre en guerre. Donc entre en guerre, on ne sait pas trop contre quoi, pourquoi, etc. Donc nous, à CQFD, en fait, on a été pas très étonnés en réalité de voir que les réacs, les droitards, les divers généraux s'emparaient des discours un peu de défense nationale parce que c'est leur dada et parce qu'ils sont un peu nostalgiques de la guerre, quoi. Mais par contre, on a été assez choqués et assez vénères que de voir qu'en face, en fait, il n'y avait pas beaucoup de réactions de la gauche, que ce soit la gauche politique partisane ou la gauche médiatique. Et voilà. Et donc c'est l'idée de cette page 3, en fait, c'est de rappeler que la nation, en fait, de faire un appel à la nation pour nous emmener au front, c'est toujours une fiction. C'est toujours une manière de manipuler les masses pour qu'elles se foutent sur la gueule les unes les autres. Donc les prolos français contre les prolos allemands à une époque, et puis demain, ce sera quoi ? Enfin, et ce qu'on a voulu, en fait, dans cette page 3, même si c'est encore assez initial, c'est de rappeler qu'est-ce que c'est qu'être internationaliste. Donc, comme l'a dit Neil, nous, on s'inscrit dans une tradition antimilitariste et internationaliste. Et voilà, donc on commence à un peu réactualiser cette notion. Et ce qu'on va vous proposer dans les prochains mois, c'est plusieurs articles qui parlent de ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être internationaliste ? Qu'est-ce que c'est d'être solidaire entre prolétaires de tous les pays ? Et voilà, comment est-ce qu'on peut se préparer et se donner aussi des anticorps contre les discours guerriers qu'on va nous servir pendant ces prochains mois.
Ouais, on s'était dit environ un article par mois, c'est ça, sur le sujet de la guerre ?
Ouais.
Parce qu'a priori, ça ne va pas disparaître de sitôt.
Non, on est bien parti.
Ok.
Quelle super nouvelle, n'est-ce pas? La guerre, tout ça. On va faire une petite pause musicale. On va écouter « Jamais un bon soldat » de Deux Ailes.
Je pars comme il voudrait, mais je fais quoi si je suis la seule armée? Mais je me pars, ils font zéro move de 100 dB, même quand tout est dans le rouge. Yeah, yeah. J'en ai fourré de béton, tes ambiances plus font grincer les dents. J'ai un talent bien plus qu'embêtant. Je connais pas les trucs en laiton, on étouffe donc on se crame et on se noie jusqu'à perdre les dents. Donc on se guette dans les crocs, on croit qu'on fait les grands. C'est trop crari, mais il rappe, c'est une tension, pas combler les blancs. Gardien des nazis, je ne comprends que le con dès qu'il se pend. J'allume Paris, mais le prix veut pas des nôtres. Je reste dans l'est, je veux pas caler les gros bonnets. Ils ont des billets, mais pas d'âme, gros problème. Ces bâtards, ils volent mon air. J'ai pas de raison d'être solaire. Je les ai toutes d'être sold out. Tu sais, estime, on reste honnête. Je serai jamais un bon soldat.
Jamais un bon soldat. Jamais un bon soldat. Jamais un bon soldat. Jamais un bon soldat.
Je suis quoi comme ils voudraient. Mais je fais quoi si je suis la seule à. Faire bouger la tête, je garde mes poèmes pour quand je fais la fête. J'aime parler des blèmes, je vais pas lâcher nos frères. Sur la table, c'est des miettes, on a assez souffert, assez souvent. Garde attitude déroutante, puis je sais que t'étais pas au courant. Cours un peu comme as avec une schneck entre les jambes. J'ai pas lâché le morceau, je fais des textes en légende. Lèche pas les grands si t'es petit, va aider les petits si t'es grand. Faut que le mérite, j'ai de la chance. J'ai réveillé le petit écran, faut que les fachos s'en cassent les dents. Hier, yeah. Je débarque, je suis là que pour choquer. On va pleurer pendant qu'on va sauter. Beaucoup à dire, rien à prouver. Le but, c'est baiser leur monde en une bouchée.
Je suis quoi? Comme ils voudraient, mais je fais quoi si je suis la seule à. Mais je me bats, ils font zéro move de 100 dB, même quand tout est dans le rouge. Yeah, yeah, je vois.
C'était Deux Ailes sur Radio Galère, la fréquence 88.4. Il est midi 8 et on est le 12 janvier. Deux Ailes qu'on a trop eu envie qu'elle finisse sa nouvelle école. Franchement, c'était grave notre chouchoute et on aime trop son rap. Donc voilà, n'hésitez pas à rapper, surtout quand c'est engagé. On essaye d'avoir Cédric au téléphone, on attend qu'il nous appelle. Et peut-être qu'en attendant, vous pouvez peut-être, on peut commencer à parler d'un autre article.
Oui, donc c'est une interview qu'on a, donc qui est présente à la page 11 du journal. Donc c'est une interview avec le porte-parole de Widerstetten. Donc Widerstetten, ça veut dire résistant en résistance en français, donc c'est un mot allemand, parce que c'est une coalition antifasciste toute récente qui s'est créée en août 2024 en Allemagne, dont les membres sont principalement, enfin pas exclusivement, mais issus des mouvements écolos, des groupes antifa anciens comme plus récents, et également des mouvements féministes et antiracistes. Donc si on a souhaité les interviewer le 29 novembre, c'est que en fait ils ont organisé l'un des plus grands blocages antifascistes de l'histoire de l'Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça s'est passé à Gießen. Gießen, c'est une ville moyenne à l'ouest du pays, et dans laquelle il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont venues en fait de toute l'Allemagne en bus pour organiser, enfin pour bloquer les routes et empêcher physiquement la tenue du congrès de refondation du parti de jeunesse de l'AfD.
L'AfD étant donc le parti d'extrême droite qui a gagné 20% aux législatives en janvier donc, dernier, donc il y a un an, ce qui en fait la deuxième force politique du pays, c'est bien ça?
C'est ça, ouais, tout à fait. Et donc en fait l'objectif de Widerstetten, donc cette coalition antifasciste qui maintenant et implantée dans 80 villes d'Allemagne, c'est d'empêcher l'accession de l'extrême droite au pouvoir en misant justement sur une stratégie de désobéissance civile de masse. Donc en Allemagne, comme dans d'autres pays, en fait, en France c'est un peu pareil, il y a historiquement deux traditions dans l'antifascisme. On a à la fois des petits groupes donc à l'esthétique très codifiée et qui agissent plutôt dans une perspective d'autodéfense contre d'autres petits groupes violents, et donc en utilisant eux aussi, y compris avec des moyens d'action violents. Et à côté de ça, il y a aussi une tradition antifasciste plus démocratique qui compte donc sur le nombre, sur le fait de faire masse. Et donc c'est dans cette tradition que s'inscrit Wider Sachsen. Et donc ce qu'ils veulent en fait, c'est penser à des actions les plus accessibles possibles, mais actions qui reposent aussi sur de l'action directe en fait, c'est-à-dire s'opposer avec leur corps directement, physiquement, contre l'extrême droite. Donc c'est de ça qu'on a parlé dans une interview que vous pouvez retrouver dans le journal. On a vraiment parlé de cette stratégie, et donc elle est disponible à la page 11 du dernier numéro.
Très bien. Est-ce que tu peux nous dire qui est la personne interviewée
C'est le porte-parole de l'organisation, donc okay. C'est Noah Sanders de son nom.
Ok.
Et voilà, porte-parole de l'organisation.
D'accord, ok. Bon, ben super, c'est super intéressant. Merci pour cette présentation. Alors, on essaye d'avoir Cédric, comme disait Louise tout à l'heure, qui est du coup une des personnes qui va nous parler de la grande double page de ce mois-ci sur le massacre des Druzes à Souweïda. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement l'article? Je ne sais pas si c'est un doute qu'il a écrit.
Est-ce que Cédric est avec nous?
Ah, Cédric est avec nous.
Okay. Salut Cédric.
Il est avec nous.
Bonjour Cédric.
Bonjour.
Ah super, ça va?
Oui, ça va, ça va.
Donc, merci d'être là. Donc comme le disait Sonia, au milieu du journal, on a une double page qui est consacrée au massacre des Druzes à Souweïda. Donc il y a eu lieu en juillet dernier. Souweïda, c'est... Donc si à un moment je dis des conneries, Cédric, tu m'arrêtes et tu me coupes hein, pour me reprendre.
Ça marche.
Mais donc j'ai bien lu l'article, donc normalement a priori ça va être juste ce que je dis. Donc Souweïda, c'est une province au sud de la Syrie. Donc c'est à la fois une province mais aussi une ville, donc la ville principale de cette province de Souweïda, qui compte environ 600 000 habitants. Et donc parmi ces 600 000 habitants, 95% sont des Druzes. Et le reste, c'est des minorités bédouines. Si on prend à l'échelle du pays, de la Syrie, donc les Druzes, ils forment une minorité, au même titre que les Kurdes ou les Alaouites, qui sont peut-être un peu plus connus. Et donc les Druzes ont une religion qui est issue d'un courant ésotérique chiite, dont ils se sont assez rapidement éloignés. Et qui est un mélange de différentes doctrines et d'une philosophie religieuse. Donc si on en parle, c'est qu'en juillet dernier, en fait, pour soumettre cette région et éteindre leur volonté d'autonomie politique, le nouveau régime syrien, donc d'Al-Shara, a attaqué justement ces Druzes de Souweïda dans un massacre qui a fait plus de 2000 morts. Et donc, comme on disait, Cédric, tu étais sur place à ce moment-là. Et donc, dans cette double page-là pour CQFD, tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé et quels étaient les enjeux, justement, autour de cette attaque. Et donc, je voulais déjà que tu nous expliques, en fait, ce que tu faisais sur place à ce moment-là. Voilà, si tu peux un peu te présenter, nous dire pourquoi tu étais là à ce moment-là.
Oui, il n'y a pas de souci. Alors, en fait, ma compagne est syrienne et elle est originaire de cette région-là. Elle est druze, elle est issue de la communauté druze, même si elle n'est pas croyante. Et du coup, on est allé une première fois en 2022. Enfin, moi, j'étais allé pour une première fois en 2022. Et quand c'était encore sous le régime d'Assad. Donc, j'ai découvert un contexte complètement différent. Et là, quand le régime est tombé, on a essayé de faire toutes les démarches possibles pour pouvoir s'y rendre. Et du coup, après 2 mois après la chute du régime, on a pu s'y rendre en début d'année, début février, avec une volonté un peu mixte. C'était pas forcément très très clair. On voulait retourner voir la famille, découvrir ce que c'était la Syrie d'après. Il y avait aussi une excitation à être là dans un moment qui nous semblait historique. Et du coup, on s'est dit qu'on allait en profiter pour faire un film. parce qu'il n'y a jamais eu de film, il n'y a quasiment pas de film en fait sur la question des minorités, sur la question des communautés syriennes. Et du coup, voilà, on est resté 5 mois entre février et fin juillet, et on a beaucoup, beaucoup tourné d'images. Pas seulement pour, chez les Druzes, parce que l'idée au départ, ce n'était pas de filmer, de faire un film chez les Druzes spécifiquement. Mais voilà, la réalité du contexte a un peu changé ce projet-là.
Et donc, c'était
donc,
un
voilà,
film
on
sur.
Était, on était sur place.
C'était un film sur, ouais. Les, sur les minorités de Syrie et leur perspective d'autonomie politique, c'est ça?
C'est ça. Les minorités, c'est un terme qui est un peu controversé là-bas parce qu'il a été souvent instrumentalisé par le pouvoir. Mais voilà, les communautés ethno-confessionnelles, parce que certaines sont ethniques, certaines sont confessionnelles. Par exemple, les Palestiniens sont sunnites, mais ça reste une minorité. Les Turkmènes, c'est pareil. Les Kurdes aussi. Voilà, donc on a rencontré quasiment des représentants de toutes les communautés, chrétiennes y compris, juives aussi, puisqu'il reste 6 juifs dans toute la Syrie. Et on a rencontré l'un des 6.
Et alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé en juin dernier, comme tu le fais dans l'article?
En juillet, oui. En fait, tu l'as évoqué tout à l'heure, pour nous, Jolani, on continue de l'appeler Al-Jani, on refuse de l'appeler Al-Farah, parce qu'il garde son nom de guerre puisqu'il continue d'être un chef de guerre.
Al-Jolani, c'est le nouveau...
C'est le nouveau président de l'Algérie, oui, qui est autoproclamé. Il n'est pas président puisqu'il n'a pas été élu. Il est chef d'État. Et du coup, il a pris le pouvoir. C'est une prise de pouvoir militaire. Donc, il était bienvenu. Nous, on était heureux d'accueillir la libération du régime d'Assad. Et comme beaucoup de Druzes, d'ailleurs, on a fêté avec les Druzes aussi là-bas sur place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, ce pouvoir-là, il a voulu imposer son hégémonie. Et il a voulu réduire à néant toute velléité d'autonomie, d'indépendance. Enfin voilà, il y a plein de termes qui peuvent être utilisés, de fédéralisme. Bref, il voulait qu'il y ait un État central sous son commandement, une seule armée, et qu'il n'y ait absolument aucune force armée alternative à la sienne. Et donc c'est ce qui a motivé une première attaque contre les Druzes au mois d'avril. Mais il a d'abord désarmé les factions druzes qui se trouvaient en dehors de la province de Souaïda, dans des villes limitrophes de Damas. Et puis la seconde phase de ce plan, en fait, ça a été l'attaque en juillet pour tenter de désarmer les factions druzes de la province de Souaïda. Et entre les deux, en fait, entre les deux attaques, il y a eu l'imposition d'un espèce de locus, en tout cas d'un filtrage sur la route, qui a été utilisé pour... parce qu'il y a un historique sur cette route entre Damas et Souaïda d'attaque des passants par des tribus bédouines qui sont plutôt liés, c'est pas les bédouins en général, c'est des groupes criminels issus des communautés bédouines qui attaquent cette route depuis longtemps, et ils savaient très bien qu'en leur confiant un checkpoint, ce qui a été fait à partir de début mai, il allait y avoir des incidents qui pourraient être instrumentalisés après, et c'est tout simplement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'un marchand druze a été kidnappé, volé, torturé mi-juillet, enfin le 11 juillet exactement, et ils ont utilisé cet événement-là pour justifier après tout ce qui s'en est suivi.
Et donc ce que tu dis, c'est que c'est pas un affrontement intercommunautaire, c'est quelque chose qui vient du pouvoir central, quoi.
C'est quelque chose qui vient à la fois du pouvoir central et qui instrumentalise le chaos syrien qui a été construit par le régime d'Assad pendant 50 ans. C'est-à-dire que tu as des groupes armés, aussi bien du côté druze que dans toutes les communautés, en fait. Et les sunnites ont été très proches du parti d'Assad. Il y a énormément de représentants du pouvoir d'Assad qui étaient sunnites. Donc c'est aussi ça qui c'est très important à préciser, parce qu'on a souvent tendance à dire les minorités étaient avec Assad et la majorité sunnite était victime d'Assad. C'est un peu plus complexe. Et donc il y a des groupes criminels du côté druze et il y a des groupes criminels du côté bédouin, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un certain nombre d'entre eux, ils étaient déjà actifs sous Assad, dont certains ont collaboré avec Assad, et des deux côtés. C'est-à-dire que les bédouins qui ont attaqué les druzes cet été, il y en a aussi un certain nombre qui étaient comme les Marsoumi, qui est un clan très connu, très proche du pouvoir d'Assad et des Iraniens.
Et donc l'offensive du gouvernement a été repoussée. Et donc depuis, quelle est la situation maintenant sur place pour les Druzes?
Alors, C'est, en fait, il y a une évolution qui est importante à noter, c'est que nous, quand on était là en mars, donc le premier mois, il y avait eu des sacres des Alaouites sur la côte déjà, donc ça avait déjà un peu altéré la confiance qui pouvait encore subsister chez les membres des minorités par rapport à leur sécurité. Mais globalement, les Druzes à Souaïda, on en est témoin direct, ils portaient le drapeau de l'indépendance à 3 étoiles, celle qui est aujourd'hui le drapeau officiel de la Syrie. Ils étaient favorables à un compromis avec l'État central. Ils étaient pour une forme de centralisation, mais dans le cadre d'un compromis. Enfin, voilà. Et ça, ça a évolué très vite avec la première attaque. Et puis la deuxième attaque a été extrêmement meurtrière. Aujourd'hui, les Druzes de Syrie n'ont plus aucun espoir, aucune confiance dans le pouvoir central. Et du coup, ils se sont tournés. Mais comme l'ensemble des Syriens depuis 15 ans, dès qu'ils étaient dans des situations de siège, de difficulté, se sont tournés vers la communauté internationale et qui étaient susceptibles d'intervenir pour les aider. Et donc, comme il y a une communauté druze très active en Israël, enfin très active, pas très active, très présente en fait, qui est aussi coupée en deux, c'est-à-dire qu'il y a une communauté qui est plutôt favorable à Netanyahou et aux sionistes, et aux sionistes. Et il y a une communauté sur le Golan, occupée depuis 1967, qui se considère comme syrienne et qui a toujours refusé l'assimilation avec Israël. Et ces deux communautés, en fait, elles ont également une influence et des liens avec la communauté syrienne à Souaïda.
Parce que, et ouais, du coup, voilà. C'est aussi ouais. L'aviation israélienne a joué un rôle dans le fait voilà. de repousser ces attaques. Et du coup, cette proximité avec le régime israélien, c'est aussi ce qui est utilisé pour disqualifier les Druzes, non, si j'ai bien compris.
C'est ça. Mais il y a une énorme caricature qui est faite. C'est-à-dire qu'il y a une frange qui n'était pas autrefois, paradoxalement, très proche d'Assad. Il y a cette même frange qui, aujourd'hui, a appelé directement l'intervention d'Israël. Et cette même frange, elle est utilisée comme un épouvantail par le pouvoir central et la majorité sunnite et les Bédouins pour dire tous les Druzes sont pro-Israël, ce qui est faux. En fait, moi, j'ai pas vu du tout de drapeau d'Israël dans les manifs avant les premières attaques d'avril. Et même après les attaques en juillet, ça reste extrêmement marginal et ça vient de ces groupes qui sont une terreur pour les locaux aussi, un certain nombre d'entre eux. Et ils sont largement pas majoritaires, c'est des petits groupuscules qui font office d'agitation. Mais effectivement, Israël a des intérêts stratégique à soutenir soi-disant les Druzes, et c'est pour ça qu'ils sont intervenus par les airs. Il y a eu énormément de frappes israéliennes, que nous on a été témoin de ces frappes, on a été témoin de l'agitation dans le ciel de Souaïda qui est inhabituelle puisqu'il n'y a pas d'avion dans le ciel syrien en règle générale.
C'est quoi ces intérêts stratégiques, si tu peux peut-être nous les évoquer rapidement, ou alors peut-être c'est trop
compliqué. En fait, dès la chute du régime, Israël a voulu que le sud de la Syrie soit démilitarisé. Mais ça, c'est vieux. Il y a eu des accords entre les Russes et les Américains déjà en 2018 pour qu'il n'y ait pas de groupes armés, notamment islamistes, au sud de la Syrie. Et donc, il y a tout un enjeu à ce que Israël, par le biais d'alliances diplomatiques, garde un contrôle ou en tout cas une surveillance sur le sud de la Syrie. Et l'exigence principale vis-à-vis de l'État central, c'est on ne veut pas d'armement lourd au sud de la Syrie. Et ça comprend aussi bien Souaïda que Dera et Kounetra, qui sont les trois provinces au sud de la Syrie qui touchent Israël. Et donc ils ont un intérêt à ce que l'armée centrale syrienne ne prenne pas possession entièrement du sud de la Syrie.
Et pourquoi justement le gouvernement donc central syrien veut prendre possession de ces territoires?
Parce qu'il peut, c'est tout simplement une question d'hégémonie de l'État. L'État doit avoir le contrôle sur l'ensemble du territoire syrien. Combien même ils fassent des compromis avec les Turcs au nord parce que c'est leurs alliés, le discours officiel c'est toute la Syrie doit être unie au sein d'un même État, mais sous le contrôle des milices. Islamistes qui ont pris le pouvoir.
Et à l'inverse, donc, tu écris un moment dans l'article que la ligne des Druzes, donc pendant longtemps, c'était ni avec le régime ni avec les djihadistes, autodéfense et autodétermination. Donc ça, c'est des mots qui parlent en général plutôt à CQFD. Et donc on voulait savoir en quoi ça consiste exactement ce volet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait l'autodétermination là-bas? Et en fait, plus simplement, à quelle forme d'organisation politique aspirent justement les populations sur place.
C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que si nous, on est allé en Syrie avant qu'on a parlé d'autonomie des Druzes avant les massacres, c'est parce qu'elle existait. C'est que c'est une question qui était pour nous politique. À partir de 2023, les Druzes se sont soulevés contre le régime d'Assad, de nouveau. Ils ont relancé la révolution de 2011, on a à peine parlé d'eux. Et parce que depuis très tôt, depuis 2012-2014, des factions se sont mises en place dans la province pour, en fait, pas pour participer à la guerre civile contre Assad, mais plutôt pour dire, nous, on ne participera pas et on n'enverra pas nos jeunes dans l'armée d'Assad pour tuer d'autres Syriens, parce qu'on se considère comme Syriens et on est pour... on refuse de tuer d'autres Syriens, en fait, de manière générale. Et ces milices se sont construites sur cette base-là. Et en même temps, elles étaient agressées régulièrement par des groupes islamistes plus ou moins affiliés à l'armée syrienne libre, et plutôt non, plutôt à Jabhat al-Nusra et à Daesh, qui ont mené des attaques meurtrières contre les Druzes. Et du coup, il y avait un enjeu de protéger la région contre toutes les menaces, que ça vienne du régime, des islamistes ou qui que ce soit. Mais il y avait des bataillons druzes dans l'armée syrienne libre qui soutenaient la révolution contre Assad. Et il y a eu des manifestations en mars 2011 et après contre Assad. Okay. Et il y a eu un certain nombre de défis lancés dès que l'armée syrienne d'Assad essayait d'entrer dans la région. Les milices druzes refusaient cette de pouvoir. Et après, politiquement, juste pour une dernière phrase pour expliquer ça, politiquement, ça prend plus la forme d'une décentralisation. Il n'y a pas la question du fédéralisme, par exemple, n'est pas abordée parce qu'elle était perçue comme une forme de séparatisme et parce que la région de Soueïda n'a pas les possibilités.
Le fédéralisme, ce serait quoi, oui, le fédéralisme?
Ce serait des régions ou des sur une base non confessionnelle ou sur une base administrative, des régions qui auraient une forme d'autonomie et qui fonctionneraient les unes avec les autres dans un système confédéral avec des modes d'organisation au niveau local qui soient démocratiques, avec des assemblées élues, représentatives, avec aussi un rôle des femmes plus accentué que dans le reste de la Syrie, etc.
Quoi. Plutôt le modèle kurde, quoi.
Plutôt le modèle kurde, mais voilà, ce modèle-là n'était pas le modèle des Druzes, parce qu'il s'appuie sur la possibilité d'être autonome financièrement, économiquement, et Soueïda n'a rien. Soueïda est puni depuis Hafez el-Assad, depuis 50 ans, est puni et n'a pas pu se développer économiquement et n'a pas de ressources. Il n'y a aucune ressource à Soueïda, à part des pommes, des amandes et trois usines. Quoi. Okay. Ils fabriquent, en plus, qui ont été fermées à la chute d'Assad immédiatement parce que l'une d'elles, elle produit de l'alcool, une autre, elle produit des tapis, et la troisième produit des sacs en cuir. Quoi.
Je vois. Et la semaine dernière, du coup, tout au long de la semaine dernière, le régime syrien a attaqué les zones d'Alep qui étaient tenues par des combattants des minorités kurdes et justement qui ont maintenant évacué la ville depuis suite à ces frappes. Est-ce que il y a un parallèle à faire avec ce qui s'est passé à Soueïda? Est-ce que ça s'inscrit dans une même logique pour le régime?
Pour moi, en tout cas, il y a un schéma dangereux qui est exactement le même qui vient de se dérouler là, les deux semaines dernières. C'est le même schéma que ce qui s'est déroulé au mois d'avril contre les Druzes dans les quartiers Druzes de la périphérie basse. Donc Jaramana, Ashrafi et Sahnaya. Et Sahnaya, qui sont trois grosses villes où il y a des majorités, où les Druzes sont très représentés, disons. Et en fait, cette première attaque visait à désarmer les factions druzes en dehors de leur, on dit en anglais, stronghold, de leur fief, de là où ils sont forts. Et que ça avait fonctionné.
Et que c'est justement ces attaques, ce désarmement qui avait permis ensuite, c'était une première étape,
oui,
pour, qui a permis le massacre à la suite. Donc c'est,
oui,
encore plus...
Pour moi, Cheikh Maksoud à Alep, pardon, c'est le Jaramana des
Du coup, je dirais que c'est particulièrement inquiétant ce qui s'est passé.
Oui, mais ils préviennent depuis, ça fait des mois qu'ils préviennent. Hein. Et les Turcs, le gouvernement turc a été très clair juste avant Nouvel An en disant, en fait, si l'accord n'entre pas en vigueur en janvier, c'est la guerre, quoi. Et ben, ça a commencé. Ils n'ont pas attendu 10 jours avant de lancer l'offensive contre les Kurdes. Donc pour moi, c'est vraiment le même schéma qui se reproduit. Et les Bédouins vont jouer le même rôle. Hein. Et les mêmes tribus qui sont intervenues à Soueïda vont jouer le même rôle contre les Kurdes. on connaît le nom de ces tribus. C'est les principales tribus bédouines, Oukaïdat, Bakara, Chammar. Ils vont tous aller, et ils l'ont déjà dit, ils ont déjà prévenu qu'ils s'associeraient au pouvoir central pour aller... En fait, c'est des auxiliaires, parce que l'armée syrienne a été affaiblie par les bombardements d'Israël à la chute du régime, qui ont détruit tout l'arsenal militaire du nouveau régime. Et du coup, ils utilisent les Bédouins comme une force auxiliaire, assez efficace, puisque ils sont sans contrôle et ils terrifient la population, en fait, parce qu'ils massacrent, ils tuent des gens aléatoirement, quoi.
Ok. Et peut-être une dernière question. Est-ce que toi, tu as prévu d'y retourner, continuer ce documentaire ?
Nous, j'avoue qu'on commence à avoir de nouveaux peurs à aller en Syrie, parce qu'on ne sait pas à quel point les checkpoints du régime sont informés en lien avec les renseignements et savent à quel point qui communique et de quelle manière sur la politique du nouveau régime. Du coup, y retourner, pour nous, ça nous paraît... bon, financièrement, déjà, en ce moment, on ne peut pas, mais c'est une autre question. Mais même, point de vue sécurité, on n'a aucune garantie.
D'accord. Je te remercie, comme on avait prévu 30 minutes d'émission. Mm-hmm. Je crois que si vous n'avez pas de questions, Olivia et Sonia, on va clôturer cette interview.
Oui, mais c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci.
Je laisse repasser avec Louise, Cédric. Tu as eu au début au téléphone.
Ouais.
Bon, oui. Bah, merci.
Eh bien, super. Merci beaucoup pour cette interview menée, Neil. Est-ce que vous voulez nous dire un dernier mot sur CQFD, son actualité, tout ça ?
Sur la campagne de dons, Lilian ?
Ouais, l'actualité de CQFD, c'est que comme chaque année, à l'approche de Noël et au début d'année, on est dans le rouge au niveau de nos comptes. Et je rappelle que CQFD, c'est un journal qui ne bénéficie pas de subventions publiques. C'est une garantie pour nous de notre indépendance politique de ton. Ni public ni privé, oui, merci. Et du coup, on vit, on a très peu de salariés, on est 2 salariés journalistes, et, une personne qui est aussi là pour la maquette, mais enfin voilà, on vit avec très peu de moyens. Donc on lance, comme chaque fin d'année, une campagne d'appel à dons et à soutien.
On lance, elle se termine presque.
Elle se termine fin janvier.
Bon, après, vous pouvez toujours vous abonner même après janvier et faire des dons après janvier, c'est pas clôturé.
Oui, c'est ça. Mais là, on met un petit coup un peu fort au début d'année pour pouvoir se lancer peut-être des nouveaux projets. Donc la radio, ça en fait partie, mais on aimerait bien faire plus de vidéos, peut-être avoir une chaîne. Enfin voilà, on aimerait être plutôt sur du multimédia aussi.
Et sortir des livres.
Prochainement. Et sortir des livres, parce qu'on a aussi des éditions, les éditions du Chien Rouge, qui, du coup, ça coûte beaucoup d'argent, enfin, l'impression des bouquins et tout. Il faut qu'on puisse avoir un peu de trésorerie pour avancer ça, et c'est très important pour pouvoir publier des gens qui ne sont pas publiés ailleurs. Donc voilà, on vous invite si ça vous plaît, CQFD, déjà d'aller le découvrir, voir si ça vous intéresse, et si oui, à nous soutenir, à nous donner de l'argent ou à vous abonner.
Ouais, voilà. L'abonnement, c'est le moyen principal, parce qu'on est un journal après tout et pas seulement une cagnotte en ligne.
Ouais, c'est ça. On est présent dans les kiosques, mais on n'a pas beaucoup d'exemplaires dans chaque kiosque. Donc si vous voulez avoir un exemplaire chaque mois, à coup sûr, le meilleur moyen, ça reste l'abonnement.
Et merci, voilà. On remercie Radio Galère pour l'invitation.
Ouais, merci Radio Galère.
Mais avec plaisir, c'est Radio Galère qui vous remercie.
On reviendra lundi.
Et oui, on vous attend dans 2 semaines,
non,
je crois.
Un mois,
deuxième lundi du mois. Oula, oui, deuxième lundi du mois, et on parlera du prochain numéro.
Effectivement, le deuxième lundi, ce sera le 9 février, donc vous pouvez déjà noter la date.
C'est-à-dire le 9 février, je ne sais pas si on a bien entendu ce que Louise disait.
Ouais.
Le 9 février, CQFD revient à Radio Galère.
Merci Louise aussi.
Merci Louise, merci Radio Galère.